France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir aux relais routiers, ces restaurants de bord de route pour le repos des chauffeurs poids lourds, à la recherche d'un parking, d'un menu traditionnel bon marché. Les relais routiers racontent l'histoire de la France d'avant et d'après-guerre. Or, leur fréquentation ne cesse de chuter. Il y avait en France plus de 4000 relais routiers dans les années 70, 600 seulement en 2005 et aujourd'hui 300 relais routiers seulement. On va tenter ce soir d'en comprendre les raisons. Reportage à suivre de Sandrine Houdin dans l'un des plus vieux routiers de France, sur la Nationale 12 en Bretagne, le relais de Beg Arra à Plouneyvez-Moëdec. L'institution ne veut pas mourir. Alors comment les relais routiers doivent-ils se réinventer, se diversifier? Quelle histoire de France raconte-t-il? Et si le relais routier avait tout ce qu'il faut pour redevenir tendance? On verra ça ce soir, voilà. Les questions que nous poserons aussi, bienvenue, c'est une semaine en France.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, bonsoir Corinna Caldaras.
Bonsoir.
Vous êtes la patronne du relais routier La Tassée, c'est à Cosne-sur-Loire dans la Nièvre. Vous étiez auparavant en région parisienne à la tête d'un autre relais, mais vous avez dû fermer ce relais près de Paris. Pour quelle raison d'ailleurs?
Tout à fait. Contrainte après 17 ans d'activité environ, j'étais contrainte de fermer ce relais routier, que c'était toute une institution. On était le dernier relais routier au nord de Paris. Donc, les routiers, c'était notre dernier, en fait, routier où c'est qu'ils pouvaient s'arrêter, manger, se doucher, et puis se reposer, faire leur pause correctement.
Pour quelle raison a-t-il fermé?
Disons que notre restaurant était situé en fait entre deux départements, si vous voulez. La nationale, elle était coupée en deux, donc sur la nationale 17. Côté restaurant, c'était 95, donc sur Villiers. De l'autre côté en face, c'était l'Oise, 60, La Chapelle-en-Serval. On avait les stationnements des deux bas-côtés de la route, donc c'était pas notre parking, on n'avait pas un parking privé, en sachant que depuis 1950, depuis que le relais il existe, ça a toujours fonctionné comme ça. Mais malheureusement, ça gênait en fait les habitants de la ville de La Chapelle-en-Serval avec plusieurs plantes et tout. La mairie a décidé de faire une piste cyclable.
Et donc, plus de parking.
La moitié, exactement.
Et sans parking poids lourd, il n'y a pas de relais routier. Qu'est-ce qui fait le charme aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le charme et l'utilité d'un relais routier aujourd'hui?
Le charme d'un relais routier, c'est que c'est un restaurant traditionnel français et puis avec une ambiance familiale. Ce qu'ils cherchent les chauffeurs, c'est ceux de contracter le soir après une journée de travail et sur les routes, dans les bouchons. Ce qui compte, en fait, c'est un ensemble, c'est l'accueil, le repas, tous ces collègues qui vont retrouver dans les relais routiers.
Mais dites-nous d'ailleurs, dites-nous qui sont vos clients. Est-ce que ce sont toujours des habitués?
Que des habitués. C'est tout le temps que des habitués qui reviennent, ils font tout le temps la même route, ils calculent leurs heures et puis ils s'arrêtent effectivement dans des endroits où ils préfèrent plus que d'autres. Et en sachant qu'on a toujours la nouvelle clientèle, hein, c'est un roulement. Donc, mais en général, on va dire 70% de la clientèle routière, ce qu'on a, c'est que des habitués.
Et quel est le plat maison que vous proposez et à quel prix?
On fait des formules complètes avec le buffet d'entrée, plat principal, plateau de fromage, un quart de vin et dessert pour 17,50 €.
Comment expliquez-vous la baisse de fréquentation des relais routiers aujourd'hui en France?
Il y a plusieurs raisons. On a remarqué déjà une baisse d'activité après le Covid, quand il y avait les interdictions des routiers à fréquenter les restaurants. Et je pense qu'ils ont dû comprendre qu'ils font des économies en gardant les frais de route et pas les dépenser dans les relais routiers. Donc, ce qui c'est normalement à la destination de les frais de route, c'est pour se nourrir et puis se doucher et puis voilà. Mais aussi à l'inflation beaucoup, l'augmentation des prix. de la matière première qui a augmenté énormément, énormément. Même nous, on a du mal à tenir, on va dire, ce tarif-là au maximum parce que on n'a pas de marge, en fait.
Merci.
Sur les menus, on n'en dégage presque pas de marge.
Merci beaucoup de ce témoignage, Corinna Caldaras. Bon début de soirée. Quelle clientèle désormais pour les relais routiers qui connaissent une baisse de leur fréquentation. On part en Bretagne, dans le plus vieux routier de France. 5 générations s'y sont succédées. À Plouvenez-Moëdec, donc en Bretagne, le long de la Nationale 12, le relais de Bégara a obtenu son logo routier rouge et bleu dans 1937, eh bien aujourd'hui l'institution n'a pas l'intention de mourir. Reportage micro ouvert de Sandrine Houdin.
Le café et la douche, ça fait 2,90.
Voici Gaude, la patronne.
Au revoir.
Et plus loin, accoudé au comptoir, son papa.
Je suis né ici, la chambre au-dessus. Là.
Né dans le relais routier.
Né dans le relais routier, oui. Un produit maison. La photo encadrée de noir. Là, j'avais 8 ans.
Ah oui, le petit bout là,
ouais,
au milieu.
Ouais,
là.
C'était, ouais, vous voyez là.
C'est votre maman, là ?
Ça, c'est ma maman, ouais, et la mémé. Elle s'appelait Anna.
Et ce sont elles qui lui ont cédé l'affaire.
Ah tiens, voilà la photo de mon père avec son tablier. 6 juin 86, ouais, c'était l'anniversaire de ma mère.
Que son relais, comme il l'appelle, disparaisse, Jean n'ose même pas y penser.
Le soir, moi, de chez moi, en face, je regarde, c'est encore allumé, ça m'intrigue toujours. J'arrive quasiment au bout de ma vie, là. Je voudrais pas voir fermé. Ce serait vraiment un choc, hein. C'est ça que j'espère, surtout de voir que ça continue au moins jusqu'à tant que je suis là.
Vous touchez le cœur en disant que ça serait un choc.
C'est le cœur qui parle pour moi, oui. C'est le sang qui parle, je pense.
C'est
le sang, c'est la famille des routiers qu'on appelle ça.
Moi, dès que je suis dans le coin, c'est ici tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Renan, 12 000 km par mois.
Celui qui a goûté au bitume, il ne peut pas s'en passer.
Tous les routiers disparaîtraient, ça vous ferait quoi?
Moi, je pense que j'arrête. Hein. Ah bah si. Le truc, comme on est là, tranquille, ce soir, entre nous. Tiens, mais tu veux faire quoi? Je m'arrêter sur un parking au bord de la route, même pas en rêve.
Sauf que, on y va tout droit, estime son collègue devant son apéro.
Il y a quelques semaines, j'étais dans le Massif Central. Il n'y avait pas de restaurant sur 3 heures de route. Là, je mangeais au camion.
Dans la cuisine, Erwan, le chef.
C'est quoi, midi?
Rable de lapin à la moutarde.
Du vrai de vrai, la vraie cuisine. Quoi.
Voilà.
Comment vous l'expliquez, cette disparition, cette hécatombe des relais?
Cette hécatombe, elle est toute simple, c'est que les habitudes de travail ont changé. Première chose, les routiers, ils n'ont plus le temps de s'arrêter comme avant, parce que maintenant, ils sont fliqués et tout ça. Il y a des GPS, il y a des heures de rendez-vous, chose qui n'était pas le cas avant. Donc, ils n'arrivent plus à couper comme ils faisaient avant. Ils mangent à la gamelle, comme on dit. Donc, ils font ces économies-là. Et nous, bah, là-dessus, on n'y peut pas grand-chose, parce que c'est l'évolution de la société qui est comme ça. Deuxième phénomène, c'est que les routiers, au fur et à mesure en changement de génération, ont considéré que les frais de route qui permettaient de manger avant, ils ont considéré que c'était un salaire et que c'était pas forcément pour se nourrir. Donc il faut bien qu'on trouve une autre porte de sortie. Et ça passe par le fait d'avoir des travailleurs indépendants, des artisans, de plus en plus de retraités, de plus en plus de familles qui viennent manger chez nous un repas complet, de l'entrée jusqu'au dessert, pour 16 euros.
Sinon, c'est rideau.
Mais nous, si on se contente de se dire ben « Non, nous, on veut que des routiers, et c'est qu'eux qui vont nous faire vivre, on est mort, c'est fini, c'est terminé. »
Papy, là, il serait pas content.
T'as de cause, il risque de mettre un pied dans la tombe, malheureusement. Donc, on a toujours adoré les routiers, on les aimera toujours, n'importe quel, ce qui va se passer. C'est notre cœur de métier. On ne veut pas perdre ça, parce qu'autrement, on perd notre âme. Par contre, ça ne suffit pas à faire tourner la boutique.
Mesdames, bonjour.
Justement.
Alors, c'est pas tout à fait prêt, mais ça va pas tarder.
Madame ?
Ah, France Inter, carrément.
Votre petit nom ?
Marie-Lou.
Marie-Lou, vous avez vos habitudes ici ?
Ah bah oui, avec les copines.
Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Pourquoi s'arrêter là et pas dans un autre resto ?
Parce que c'est de la cuisine familiale, il y a du choix. Au lieu de faire que des kilomètres et des kilomètres de goudron avant de trouver une crêperie pas bonne quelquefois... Eh bien, ma foi, chez le routier, on est sûr de ce qu'on va trouver et de la qualité. En plus, pas cher. Et avec ce qui va se passer pour nos retraites, vous comprenez, on fait attention. Et c'est bien dommage qu'ils disparaissent.
Parce que c'est du patrimoine macadam qui s'en va pour la patronne actuelle.
C'est du patrimoine, ouais, c'est un lieu historique. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être comme les autres, fermé, et puis voilà, terminé, vendu en, je sais pas, en parking, en...
Ouais. Ça vous ferait quoi, ça?
Voilà, c'est... C'est dur de, d'y penser par rapport à mon père qui est toujours en vie, qui lui, bah, comme il dit, il l'a dans le cœur et moi aussi, quoi. Et voilà.
Avec le moteur et le klaxon du camion, voilà pour ce micro ouvert de Sandrine Houdin dans le plus vieux relais routier de France à Plouvenez-Moëdec, c'est en Bretagne. Une semaine en France consacrée donc ce soir à ces bistrots le long des nationales qui connaissent une baisse de leur fréquentation alors qu'ils ont tout pour être tendance. On en parle à présent avec notre nouvel invité. Bonsoir Guillaume Blot.
Bonsoir Yves Delvaux.
Vous êtes photographe documentaire. Vous avez entamé en 2018, pendant 6 ans, un tour de France des relais routiers pour publier ce superbe album photo. Le livre a pour titre Resto routier, paru aux éditions Webeck chez Gallimard, témoignage de cette France des bords de route. Guillaume Blot, quelle est donc cette France que vous avez souhaité montrer dans votre album ?
J'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps de m'arrêter dans ces oasis de repas et de repos le long des routes nationales de France pour vraiment raconter ces histoires que j'entendais, montrer, valoriser ces résistantes et résistants parce que j'ai un énorme respect pour leur travail très tôt le matin jusqu'à tard le soir et puis surtout à servir des repas incroyables, entrée plat, dessert, quart de rouge, café pour à peine 16 euros. Donc je suis vraiment admiratif et ce que j'ai essayé de faire à travers mon projet photo.
Avec des visages sur les photos, des visages qui ont souvent le sourire malgré les difficultés ambiantes. C'est aussi cette forme d'élégance que vous avez souhaité mettre en avant.
Oui, c'était vraiment montrer cette vie haute en couleurs que j'ai pu croiser la route et raconter ces histoires de, je pense, à Mimi, la patronne à relais à Fargues-sur-Aubise dans le Lot-et-Garonne, qui a 72 ans, dont 49 années de service, c'est incroyable. Et je pense aussi à Julien et Florence, qui sont patrons de la Clé des Champs à Petitcot, en Seine-Maritime. C'est vraiment des histoires singulières que j'ai voulu raconter et ils avaient pour la plupart un grand sourire, c'est vrai.
Oui, singulières ces histoires et ces photos toujours flashy. D'ailleurs, photos flash, hein, souvent. Photos bigarrées, très colorées. Pourquoi ce parti pris ?
Pour vraiment mettre en lumière, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment illuminer ces espaces de vie, ces personnes qui les fréquentent, qui les animent. Et je crois que le flash permet en tout cas de bien faire rehausser les couleurs et de mettre l'accent sur ces personnes que j'ai pu croiser.
Et au-delà du simple reportage, enfin je dis simple, hein, ça a duré 6 ans, c'est aussi une France qui est en train de disparaître. Et vous avez souhaité, dans cet album, documenter, archiver un peu, commencer à archiver.
Oui, je les appelle non pas des espèces, mais des espaces en voie de disparition, les relais routiers avec leur forte érosion depuis 50 ans maintenant. Et donc c'était un projet à la fois d'archivage, à ma petite échelle pour graver une France des restos routiers d'aujourd'hui, tant qu'il en reste. Et c'était aussi un projet politique à travers ce livre d'encourager tout à chacun, chacune, et bien à pousser la porte de ces restos quand il y a des départs sur la route pour vraiment chacun les sauver à notre petite échelle.
Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Blot. Je rappelle le titre de votre livre de photos intitulé « Resto routier ». C'est publié donc aux éditions Webeck chez Gallimard. Vous écoutez Une semaine en France, la France des relais routiers. On en parle jusqu'à 19h.
Laisse tomber la pluie, petit. Pas assez de soif ni d'appétit. Tu vaux que d'alpha, ça douce bruit. Tellement de galères téléphonées. À force de les voir venir, je fais l'étonné. Le bonheur c'est pas le cul, ni les thunes, le manque d'amour fait de nous des sujets d'études. Je relève tous les défis, terre plate, fusée, typhus, info diffuse. L'usine d'à côté privatise l'eau, cause des maladies chroniques et on oublie tout à Noël. Ce soir il pleut, qu'est-ce que t'es belle, mets ton pyjama, on sort pas de l'hôtel.
Je suis juste un super héros devant une super aide. Fais le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique, tout est magique. Quand tu sais confier tes secrets à un piano.
Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses.
pas de seconde à perdre. Laisse-moi kiffer tranquille. Trop de causes défendues me font siffler. Donner son avis, tout le monde s'y met. L'art est difficile, les postes font s'y mettre. Quand on pourrait se taire. À l'heure où je te parle, une bombe est larguée quelque part. Si 30 likes valent une vie, clique pour la planète. Ramasse les paillettes, rien dans l'assiette. J'suis né au bord du désert, un jour de pluie. Y'a ce qui t'inspire et ce que le sort te réserve.
J'ai juste eu le temps de dans la putain mélco. Et 9 mois après, je marche sur du lego. J'entends les noms d'oiseaux que l'on prête à tous ces poètes.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique, tout est magique. Quand tu sais confier tes secrets à un piano.
Magique, c'est le titre de ce titre, donc le titre du dernier album de Puccino, Oxmo Puccino, avec le rappeur Turi, c'est le choix de Djoubaka. Vous écoutez Une semaine en France, à la rédaction en chef Frédéric Barrère, réalisation Stéphane Combe. Un grand merci à Benjamin Ducy qui m'a aidé à préparer ce 18-20 du vendredi, à la technique ce soir Renan Mahé et Mélissa Etroit.
France Inter, le 18-20.
Quel avenir, donc c'est le thème ce soir, quel avenir pour les relais routiers en perte de vitesse le long des routes. On en parle à présent avec vous, Laurent de Saulieu, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le directeur de publication du journal Les Routiers et vous êtes aussi le gérant de la chaîne Les Relais Routiers. Ce logo bleu, blanc, rouge, surtout rouge et bleu, qui identifie le relais routier, il existe depuis 1934. Comment est-il né d'ailleurs ?
Alors c'est une vieille histoire, il existe depuis 1934 parce qu'il a été créé à la suite de la création du journal Les Routiers par mon grand-père François de Saulieu. Et une fois qu'il a eu créé le journal Les Routiers, il s'est rendu compte qu'il fallait trouver un endroit pour que les routiers puissent lire le journal parce qu'ils étaient très peu chez eux. Donc il a créé la chaîne des relais routiers et dans la chaîne des relais routiers, depuis 1934, on peut lire le journal Les Routiers qui est en lecture. Vous allez dans n'importe quel relais routier, vous pouvez lire chaque mois le journal Les Routiers. Donc voilà, c'est marrant, c'est la chaîne des relais routiers, c'est presque un accessoire du journal Les Routiers.
Ouais, c'était l'époque des camions Bernard H8 hein, et autres Berliers. Quels sont les critères aujourd'hui pour qu'un restaurant puisse bénéficier de votre logo relais routier ?
Alors c'est assez immatériel en fait. Enfin, la première chose, c'est l'accueil. C'est ça qui est très immatériel. Il faut que le chauffeur routier qui arrive dans un relais routier, quand il est déjà venu à plusieurs reprises, il faut que le patron se souvienne de son prénom et de ses habitudes, et c'est le cas. Et ça, l'accueil, c'est vraiment la chose la plus importante. Les routiers sont tout seuls dans leur cabine toute la journée, et il faut qu'ils soient un peu comme à la maison dans un relais routier. Donc l'accueil, c'est la chose la plus importante. Après, bien sûr, il y a le prix, et le rapport qualité-prix. Il faut que le menu soit autour du taux de remboursement des frais professionnels du repas d'un chauffeur routier, c'est-à-dire le chauffeur routier est remboursé de 16,20 € pour un repas. Donc le menu doit être dans cette fourchette de prix. Mmh. Et ensuite, bien entendu, il faut qu'il y ait un parking. Et c'est quasiment un service public, le parking, parce que ce qui est très difficile à vivre pour un chauffeur routier, c'est de pas savoir où il va s'arrêter.
Vous savez, les chauffeurs routiers. Or, il est obligé de s'arrêter, hein, et il ne doit pas faire plus d'un certain nombre d'heures.
Non, et il peut pas dépasser plus de quelques minutes son temps autorisé. Et il risque même d'être verbalisé sur 56 jours après l'infraction, parce que le chronotachygraphe enregistre sur 56 jours, vous vous rendez compte. Donc c'est vraiment un stress, l'arrêt pour un chauffeur routier. Et le parking, c'est super important. Mmh. Donc le parking, et puis bien sûr, quand c'est possible, mais c'est le cas le plus souvent, des douches.
Alors, je vous pose la même question qu'aux autres intervenants de cette émission. À quoi attribuez-vous la baisse de fréquentation des relais routiers qui s'est précipitée un peu depuis au moins 20 ans ?
Oui, alors c'est une vieille histoire quand même, parce que ça commence avec les autoroutes dans les années 70 et 80. qui se sont multipliés et qui ont fait que les camions ne roulaient plus sur les nationales. Donc ça a provoqué la fermeture de beaucoup d'établissements. Ensuite, il y a eu, pour les établissements qui restaient sur les nationales, il y a eu, et c'est ce que disait votre première intervenante, il y a eu le fait que les communes font tout ce qu'elles peuvent pour empêcher les camions de passer, de circuler, de s'arrêter. Donc il y a des interdictions de transiter, des interdictions de stationner, etc. et qui font que les camions ne peuvent plus s'arrêter. Vous voyez, on veut bien sa livraison Amazon en 24 heures, mais on veut pas les camions. Ça, c'est bon. Et ça, c'est le deuxième point le plus important. Ensuite, il y a récemment, là, il y a eu en effet une modification des habitudes des chauffeurs routiers qui ont tendance à en effet prendre leur repas dans leur cabine. En tout cas, à midi, ça c'est clair, et pas mal le soir aussi. On a également une modification socio-professionnelle des chauffeurs routiers internationaux qui viennent maintenant de l'Europe de l'Est, mais très très à l'Est, hein, et voire même jusque l'Afghanistan, le Pakistan et la Turquie. Et ces gens-là, bien sûr, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que les routiers français et ils n'ont pas les moyens de se payer un dîner dans un relais routier.
On va s'arrêter sur ce point qui n'est pas un détail. Hein, cette profession de chauffeur routier dont vous rappelez qu'elle s'est internationalisée, ça veut dire qu'on ne trouve plus désormais un même chauffeur qui fait la même tournée avec toujours les mêmes arrêts au même endroit. Ça explique aussi qu'il y ait moins d'habitués aujourd'hui dans les relais routiers.
Oui, on trouve encore des routiers qui ont des tournées en régional ou en national, mais on trouve presque plus de chauffeurs routiers français qui travaillent à l'international. Et donc tous ceux qui viennent de l'international ne sont plus des routiers français, sont des routiers d'Europe de l'Est et des routiers qui n'ont pas le même pouvoir d'achat. Mais ils sont nombreux, ces routiers-là, qui autrefois étaient dans les relais routiers. Hein. C'est cette partie-là qui a disparu.
On entendait notre premier témoignage, cette patronne de relais qui disait que les chauffeurs routiers aujourd'hui ne veulent plus dépenser ce qu'on appelle les frais de route, ils mangent seuls dans leur cabine, c'est pour faire des économies là aussi ?
Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de les justifier, alors ils n'ont pas besoin d'avoir un ticket, ils n'ont pas besoin d'avoir une facture, donc effectivement, il y en a qui font avec ça... Bon, un chauffeur routier, ça ne gagne pas très très bien sa vie, il faut le dire, hein. Et donc il y en a qui grâce à ça, vivent un peu mieux. Mais l'inconvénient, c'est que c'est en général... Il peut y avoir des difficultés d'alimentation parce qu'on mange quand même pas très bien un sandwich dans une cabine, c'est quand même pas formidable. On est quand même beaucoup mieux dans un relais routier.
Les relais routiers sont donc condamnés à attirer une autre clientèle au-delà des seuls chauffeurs de poids lourds.
Oui, alors ils l'ont toujours fait. Hein. Il y a toujours eu des voyageurs de commerce, des artisans, des ouvriers du bâtiment, d'un bâtiment qui n'aurait pas été loin, des touristes. Et une clientèle locale, il y a toujours eu ça. Mais en effet, les relais routiers qui se débrouillent aujourd'hui, ils accentuent cette clientèle-là. Hein, ils s'appuient sur le capital sympathie de la marque et de l'image du relais routier qui est vrai, hein, c'est très sympathique.
Une marque, effectivement, qui dure et qui perdure, la marque en voilà. Tout cas.
Donc ils s'appuient là-dessus pour essayer de faire varier leur clientèle. Et il y en a qui y arrivent bien, hein.
Laurence Saulieu, vous restez avec nous encore un instant. On a deux, trois questions à vous poser encore. Le temps de me tourner vers vous, Corinne Audouin. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Alors, on va s'intéresser ce soir avec vous à la figure du chauffeur routier dans la culture populaire et aussi dans l'actualité.
Oui, puisqu'on a bien vu, Eric, les évolutions sont parallèles entre le métier de chauffeur routier et l'avenir de ces relais routiers. Alors, petit retour en arrière. Dans les années 50, au cinéma, le routier remplace l'ouvrier dans la représentation du prolétariat. Grande gueule, physiquement imposant. C'est Jean Gabin dans Gaz de Gilles Granger. Au volant de son Willem, les gangsters ne lui font pas peur.
Je vais vous dire ce qu'on va faire. On va essayer de reborder toutes les routes et de les piéger avant la nationale. Alors toi, Jojo, tu vas prendre la route des Crêtes. Toi, Lulu, tu vas passer par le col de la Ventouse. Et puis toi, Émile, tu vas prendre la route de Murol.
Je passerai par le bois. Je vais appeler le gros Robert, ça freine plus.
D'accord.
Jean, et moi.
Et toi, tu viens avec moi. Et puis toi, tu nous attends ici bien tranquillement. Allez, au revoir.
Voilà, le routier peut toujours compter sur ses camarades, le gros Bernard et les autres. La solidarité pour supporter ce métier difficile et solitaire. Pourtant, ceux qui l'exercent en sont fiers, comme Joël en 1973.
Je suis content parce que je suis libre. Je fais mon boulot, quoi. Personne ne me commande. Bien entendu, il faut que je sois toujours à l'heure. Hein. Ça, c'est normal. Mais on est un peu libre quand même. En chier, ces libertés, on les paye cher. Enfin, ça fait rien. C'est mon lieu de travail, puis c'est mon appartement, si je veux bien. C'est ma vie.
Les problèmes, ils existent. Mais tous les routiers savent, comme Joël Lefort, que lorsque l'on fait ce métier, on l'a avant tout dans la peau.
Alors ce camion auquel les routiers sont si attachés, si impressionnant quand vous le croisez sur la route, eh bien c'est comme le prolongement de celui qui le conduit. Alors le routier peut susciter la peur, mêlée aussi d'une fascination étrange.
À un moment donné, aussi, le chauffeur s'arrêtera dans un routier et il mangera un sandwich. Elle le regarde manger avec beaucoup d'attention et elle lui parle de ses mains. Elle lui dit « Je ne supporterai pas qu'un homme me touche avec des mains pareilles, aussi abîmées, aussi sales. Jamais, jamais. »
Vous aurez peut-être reconnu Marguerite Duras dans son film Le Camion en 1977. Alors loin du fantasme de la romancière, Max Meynier sur RTL fait entendre la voix et la vraie vie des routiers.
RTL et Max Meynier vous disent « Les routiers sont sympas. » Relax, Max. Salut les artistes.
Une petite Madeleine, tous les soirs entre 72 et 83, Max Meynier, le compagnon, le confident des routiers, les Français les trouvent sans doute un peu plus sympas.
Il faut aussi rappeler, Corinne, que le chauffeur routier, c'est aussi une des figures emblématiques des luttes sociales.
Oui, car il a le pouvoir de bloquer le pays, pas d'essence, et c'est toute la France qui tombe en panne. Un personnage émerge en 92, Tarzan, à la tête de la contestation contre le permis à points.
France Inter.
Pour l'instant, pas question d'un permis spécial pour les routiers. C'est pourtant ce qu'ils réclamaient, les routiers, pendant les barrages de juillet. Alors, leur populaire porte-parole Tarzan est très mécontent et il le dit à Dominique André.
Ma première réaction, c'est qu'ils n'ont rien fait. Et je crois qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Parce que je me suis expliqué avec le Premier ministre à ce sujet-là, au ministre des Transports, à M. Bianco, à M. Rocher, et ils n'en ont pas tenu compte. Alors ça va pas du tout. Parce que c'est vraiment... ils se foutent de la gueule du monde. Quoi. Voilà, en parlant crûment, ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule des chauffeurs routiers.
Une lutte qui fera quand même passer le permis de 6 à 12 points pour tout le monde. La suite, c'est la mondialisation, le dumping social, avec le boom du commerce en ligne. Il faut livrer toujours plus vite, quitte à perdre le sens du métier.
On vous propose la livraison gratuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail qu'un chauffeur routier fait, il n'a pas de valeur. Mon travail est reconnu à quel moment, à quel endroit. À quel endroit on reconnaît que je vais partir à 22h le soir pour livrer à 6h chez vous demain matin. C'est-à-dire moi, aujourd'hui, je ne représente rien dans la société. Je ne représente que dalle. Je suis derrière un volant, mais je ne représente rien.
Extrait d'un documentaire de 2023, Routier, les forçats du bitume. Indispensable, mais devenu invisible, le métier de routier n'a jamais autant peiné à recruter.
Merci beaucoup Corinne Audouin pour ce pas de côté sur la figure du routier en France. Laurent Saulieu, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Les Routiers, vous êtes aussi le gérant de la chaîne Les Relais Routiers. Loin des autoroutes donc désormais, les relais routiers, comment doivent-ils se réinventer pour perdurer?
Alors oui, il faut qu'ils cultivent une nouvelle clientèle. Mais ils ont des atouts pour ça parce qu'ils ont un capital de sympathie important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils représentent la gastronomie française. Hein, c'est le patrimoine de la gastronomie française.
Mais quelle est cette cuisine d'ailleurs simple et bon marché aujourd'hui, celle qui a fait le succès des relais routiers? Elle ressemble à quoi aujourd'hui?
C'est de la cuisine traditionnelle française, c'est de la cuisine familiale, j'allais dire. Parce que pour faire un menu à 16 euros et quelques, il faut que la matière première soit pas très chère. Donc on utilise des produits pas très chers à l'achat et on se retrouve avec, du coup, des trucs extraordinaires comme du pot-au-feu, comme de la tête de veau, comme vous voyez, des choses comme ça, des choses pour lesquelles la matière première vaut pas très cher. C'est très important ça dans la cuisine des relais routiers.
Un mot sur la capitale. Alors qu'il n'y a plus de camions dans Paris, comment expliquer la présence aujourd'hui encore d'un ou deux relais routiers, notamment dans le 8e arrondissement de Paris, et je crois aussi du côté de Saint-Lazare?
Parce qu'on est une très vieille maison, la chaîne des relais routiers, on a bientôt 100 ans, et jusqu'en 69, jusqu'à ce que les Halles déménagent à Rungis, les Halles étaient à Paris, et les camions traversaient Paris toute la nuit, et il y avait des relais routiers à Paris. Celui dont vous parlez, dans le 8e, c'est chez Grange, rue de Lisly. Il existait déjà en 1934, il existe toujours avec la même famille, et on n'a pas voulu les retirer, ça nous sert de vitrine, enfin c'est magnifique un relais routier dans Paris.
Merci beaucoup de ce témoignage, Laurent de Saulieu. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Les Routiers, et que vous êtes aussi le gérant de la chaîne Les Relais Routiers. À suivre, le multiplex des régions avec nos collègues du réseau ici. Nous ferons étape à Limoges, à Tours et à Reims pour la rénovation du grand orgue de la cathédrale. Merci d'écouter France Inter, 18h50.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. That we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high.
En 1972, Mr. and Mrs. Jones, c'était Billy Paul.
France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité d'ici et d'ailleurs à présent avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Champagne-Ardenne, ICI Limousin et ICI Touraine. Marine Corbel, Jérôme Hédan, Romain Desaigues, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir, Eric.
Bonsoir.
À Reims, pour commencer, Marie Corbel, la dernière phase des travaux de rénovation du grand orgue de la cathédrale de Reims, cette dernière phrase est lancée.
Oui, tout à fait. Dernière phase, oui. Des travaux qui ont commencé en 2021, les ouvriers voient le bout du tunnel après 30 000 heures de travail. Cette dernière phase, on l'appelle l'harmonisation. C'est en fait ce qui permet de régler le volume, le timbre et la justesse de l'orgue de manière très très fine. Et il y a du boulot, il faut écouter et ajuster le son des 6742 tuyaux un par un. C'est la condition pour que l'instrument, muet depuis 7 ans, retrouve sa voix. Et puis c'est vraiment l'aboutissement d'une restauration titanesque. Il y avait tout à refaire sur cet orgue qui a subi l'histoire. Détruit, reconstruit à de nombreuses reprises, il n'avait pas été restauré depuis 1937.
Et cet orgue de la cathédrale de Reims, rénové, quand pourra-t-on l'entendre ?
Il sera inauguré au printemps 2026. Il aurait pu être prêt à jouer plus tôt, mais la restauration a pris un peu de retard à cause d'un autre chantier bien connu, celui de Notre-Dame de Paris. Les facteurs d'orgue, ça ne court pas les rues, c'est donc la même société qui s'est occupée des instruments des deux cathédrales. Rendez-vous donc à Reims le 13 mai prochain pour le réveil de l'orgue. Il sera suivi d'un concert qui promet d'être spectaculaire. Et puis, petite anecdote hein, sur les 50 travaux. Sur les plus de 2 millions d'euros du chantier, 850 000 ont été donnés par des mécènes, des particuliers, des entreprises. Et les plus gros donateurs auront une petite plaque à leur nom posée à l'arrière de l'instrument.
Et vous avez bien fait de rappeler qu'on appelle ça le réveil de l'orgue. À Limoges à présent, Limoges, Jérôme Hédan, parce que la ville est évoquée dans le dernier album d'Astérix, mais pas forcément de manière avantageuse. Voilà pourquoi les Limougeaudes et les Limougeauds ne comptent pas en rester là.
En effet, Eric, Limoges qui fait souvent hein, l'objet de dérision à cause du mot limogé. Et donc, il y a du Limoges bashing, même dans Astérix. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, d'un légionnaire romain qui, dans un coup de blues, la mine déconfite, se surprend à penser, je cite, « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai subitement envie de demander ma mutation à Avestoritum. » Et les auteurs précisent par une astérisque et non pas une astérix, qu'il s'agit de Limoges du temps des Romains, sous-entendu, bah, pour en arriver à vouloir venir à Limoges même sous Jules César, il faut vraiment être au fond du trou. Réaction en début de semaine de deux libraires limougeaux spécialisés BD. Ils ont invité les auteurs Fab Caro et Didier Conrad à venir partager ce qu'on pourrait appeler un banquet à Limoges pour voir que non, ce n'est pas un trou, que oui, il y fait bon vivre et qu'en plus, ici aussi, on aime Astérix, de quoi faire une petite dédicace. Mais surtout, l'un des deux libraires a relevé une belle petite erreur dans la bulle du légionnaire parce que Avestoritum, eh bien, ça n'existe pas, le nom romain de Limoges, c'est Augustoritum, pan sur le bec. L'éditeur a promis évidemment de corriger dans les prochains tirages. Par contre, le Limoges bashing, lui, sera toujours sur la planche.
Et de Limoges, nous partons à Tours, Romain Desecq, parce que ce sera demain le tout premier match du club de l'Union Foot de Touraine. C'est un nouveau club fondé cette année sur les cendres du Tours FC.
Oui, premier match dans le mythique stade du Tour FC, le stade de la Vallée du Cher, qu'ont foulé de grands noms, Olivier Giroud, Laurent Koscielny, ou pour les plus anciens, Omar Da Fonseca, Delio Onis. Jusqu'alors, l'Union Foot de Touraine, née après la liquidation judiciaire du Tour FC, jouait dans la banlieue de Tours, et elle a trouvé il y a quelques jours un accord avec la mairie pour occuper la Vallée du Cher, stade inoccupé depuis 8 mois. Forcément, il y a pas mal de petits travaux à faire, 4000 sièges à nettoyer, et un bon coup de peinture, des tribunes au vestiaire avec les nouvelles couleurs de l'UFT, jaune et bleu. Une étape symbolique, mais loin d'être anecdotique pour les dirigeants.
Ouais, des dirigeants pas totalement méconnus d'ailleurs dans le milieu du football. Hein.
Il y a Olivier Piqueux, le manager général, ancien président du Stade Malherbe de Caen. C'est lui qui est parvenu à installer durablement Angers en Ligue 1. Alors le voir à la tête d'un club de National 3, l'équivalent de la 5e division du foot français, ça en a étonné plus d'un au moment de sa nomination. Ça dit beaucoup aussi des ambitions de la présidence, incarnée par Basile Riboud, petit-fils du fondateur de Danone. Son père en fut d'ailleurs le PDG. Un casting qui laisse les fans de foot tourangeaux rêveurs, même si le chemin vers l'élite est encore très très long.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs, avec nos cousins, nos amis, nos collègues du réseau. Ici, à suivre, le journal de 19h sur France Inter. Et puis, à partir de 19h20, ce sera le téléphone sonne à propos de la 10e édition du Mois sans tabac. Ce mois qui débutera demain. Comment devenir un ex-fumeur ? Faites-nous part de votre expérience. 01 45 24 7000 ou bien via l'appli Radio France. Le téléphone sonnera jusqu'à 20h.